repéré ce livre à la librairie CLC, La trame de ce monde. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau titre, La trame de ce monde, pour parler justement du travail, dans le sens donc chrétien, de chercher quelle est la vision que le chrétien a lui-même du travail. Et alors, comme c'est un livre, eh bien, il y a toute une analyse, une réflexion, et d'abord un constat d'une grande ambivalence dans notre attitude vis-à-vis du travail. Nous cherchons à lui échapper et nous le trouvons nécessaire. Alors, voilà, pourquoi est-ce que c'est ainsi dans notre vie? Eh bien, donc, l'auteur fait une plongée dans l'histoire de l'Occident, hein, en particulier, et il nous dit que pour les Grecs, le travail était une malédiction. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un labeur incessant pour entretenir le corps qui n'aboutit qu'à la mort et à l'oubli. Il faisait l'expérience de la vanité, hein, comme dit l'Ecclésiaste, mais sans reconnaître à Dieu seul, l'honneur de l'immortalité, en fait. C'était ça qui leur manquait, la connaissance de Dieu. Donc les Grecs cherchaient plutôt l'immortalité pour eux-mêmes, l'immortalité des dieux, en s'engageant dans des activités qu'ils appelaient nobles, comme la politique ou les faits d'armes. Et la renommée engendrée ainsi valait une forme d'immortalité. Alors les riches se consacraient à cet objectif en exploitant une classe d'esclaves pour tous les travaux productifs. Les philosophes, Platon, Aristote, partageaient cet objectif, mais plaçaient la vie contemplative encore au-dessus de l'engagement politique. Ils cherchaient la connaissance comme bien suprême, en méprisant les désirs charnels. Ils voulaient ressembler aux dieux, qu'ils voyaient comme sereins, complets en eux-mêmes, dans des cieux lointains. Ce n'étaient pas les dieux de la mythologie populaire, hein, qui, eux, exprimaient plutôt les passions, hein, les dieux de la guerre, les dieux de l'amour, etc. Tandis que donc, la vie du philosophe était vue comme supérieure, parce que moins soumise aux aléas des circonstances que celle même des hommes politiques et des guerriers. Alors, abrité au sein d'une société organisée, le philosophe peut s'adonner à la réflexion, qui est le potentiel humain le plus élevé. Et seule une élite y parvenait. Alors, Aristote ne distinguait pas l'âme du corps, mais Platon le faisait. Et pour lui, donc, l'âme doit se dégager des choses sensorielles pour retrouver son origine immatérielle, ce qu'il appelle le monde des idées. Et il s'efforce, on peut dire, de retrouver à sa mort la compagnie des dieux. Socrate aussi se lamente sur les besoins du corps qui empêchent de s'adonner à la philosophie. Quel rapport avec la vision chrétienne du travail? Eh bien, c'est que les pères de l'Église, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, ceux qui ont succédé aux apôtres, ont été marqués par la philosophie grecque. Et ils ont reproduit la même approche, c'est-à-dire que la vie éternelle désincarnée et la contemplation de Dieu constituaient pour eux la recherche du royaume de Dieu. C'est-à-dire que la vie contemplative était privilégiée. Le service du prochain était vu comme inférieur à la contemplation de Dieu, parce qu'ils obligent à s'engager dans le monde. Les devoirs de la charité sont contraignants, alors que la contemplation de Dieu, par son prolongement éternel, est souhaitable. Et c'est une des raisons de la vie monacale, c'est-à-dire les moines, qui n'était pas liée à la nécessité de se sanctifier, mais plutôt de se justifier devant Dieu. L'Église avait instauré une économie du salut fondée sur les œuvres, avec constamment l'acquisition ou l'échange de mérites. Et dans cette logique, les moines, en renonçant au monde, se justifiaient en se consacrant à des exercices spirituels et permettaient aussi, par la même occasion, à leurs protecteurs de se justifier. Au début, ils travaillaient quand même, parce que le travail était nécessaire pour lutter contre les désirs. Et puis, les métayers, les protecteurs, entretenaient pour eux les champs dévolus au monastère. Et enfin, il y a eu l'émergence d'un sous-ordre de frères laïcs chargés des travaux et du commerce, afin de libérer les moines pour les pratiques liturgiques. Ce qui fait que les moines ne travaillaient plus, ils étaient censés, par leur prière, par leur liturgie de tous les jours, accumuler des mérites pour eux et les autres, par leur prière. Voilà, ils passaient leur temps simplement dans la contemplation pour pouvoir accumuler des mérites. À la Renaissance, la découverte de Dieu comme créateur tout-puissant, la redécouverte, amena plusieurs philosophes à le concevoir comme l'artisan, l'habile artisan cosmique de l'univers et l'architecte de l'univers. De ce fait, à partir de ce moment-là, ressembler à Dieu signifiait être capable d'une activité productive. Cela amena l'industrie humaine et le contrôle sur la nature. Et l'homme s'est aussi mis à imiter la sagesse créative de Dieu dans le monde culturel en idéalisant la figure de l'artiste qui donne une forme à la beauté. C'est ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est-à-dire l'innovation, le développement technologique, la créativité, l'imagination. Tout cela a été exalté et non plus réprimé comme c'était avant pour mieux ressembler à Dieu. Et c'est sur cette base que plus tard, un philosophe comme Karl Marx a pensé à une véritable réalisation de l'homme à travers son travail et la contemplation de son résultat. Mais il a été contrarié par le fléau d'une exploitation indigne de la capacité de travail humaine. Il a donc réfléchi sur les effets négatifs de la division du travail qui ramène l'homme à une condition animale. L'homme ne trouve plus son épanouissement dans le travail et cherche alors des compensations dans la consommation. Et ce philosophe pensait, et vous le savez bien, que la révolution, en refaisant de l'outil de production un bien public, redonnerait l'épanouissement personnel. Il rêvait à une transformation sociale et économique à travers la révolution, faite par des gens qui étaient parvenus à bout, jusqu'à une vraie liberté dans une société sans classe. Eh bien, cette société n'a pas vu le jour. La vision idéalisée du travail n'a pas convaincu grand monde. Elle ne correspond pas à l'expérience humaine habituelle qui est tournée vers la recherche du plaisir. C'est le constat d'un autre chercheur qui s'appelle Sigmund Freud, qui finalement en conclut que nous ne faisons que surseoir à notre plaisir en organisant nos conditions de vie par le travail. C'est le propre de la civilisation. Et nous devons nous résoudre à souffrir, on peut dire, pour vivre, à travers le travail. Maintenant, les chrétiens, eux, parallèlement, ont retrouvé une autre notion. À partir de Martin Luther, la compréhension du travail a changé. Les réformateurs ont développé la notion de vocation, qui lie le travail au service du prochain. Dans tous les domaines de la vie, Dieu se sert de notre travail pour exercer sa providence envers la race humaine, chacun en ayant sa part. Le travail de l'homme est le prolongement de la création divine. Par le travail, l'homme affirme sa position spécifique de représentant de Dieu sur la terre. Les œuvres religieuses ne sont plus celles qui sont destinées à justifier l'homme devant Dieu. mais comme la prière, la liturgie, la contemplation, mais plutôt celle qui consiste à s'engager auprès du prochain, dans la confiance en la grâce de Dieu pour le pardon des péchés. Nous vivons la foi au milieu du monde, non pas comme le moine qui se sépare du monde pour ne penser finalement qu'à lui-même. Tout travail séculier est saint s'il est vécu dans la foi. C'est ça la conclusion des réformateurs, de Luther en particulier. Et d'autre part, plutôt que de chercher à souffrir pour Christ par l'ascèse et les privations, Luther enseigne que c'est dans les occupations terrestres qu'il y a une croix à porter. En étant un chrétien consciencieux, autant comme patron, comme bourgeois, comme fermier, nous aurons notre part aux souffrances. Notre amour pour Dieu consiste aussi à aimer notre prochain dans sa détresse, car c'est Dieu lui-même qui se présente ainsi à nous. Calvin également a souligné une mauvaise interprétation du récit de Marthe et Marie dans l'Évangile. Jésus n'a pas reproché à Marthe de travailler, mais de ne pas s'être soucié d'écouter. Et le réformateur dénonce un faux appel à la vie contemplative qui semble inspiré par la philosophie grecque, et il cite Aristote. La toute-puissance du Dieu d'Abraham, dit Calvin, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'était pas telle que les sophistes l'imaginent, vaine, oisive et quasi assoupie, mais toujours veillante, pleine d'action, pleine d'efficace et d'action. Nous ressemblons donc davantage à Dieu quand nous nous engageons dans l'action. Dieu, créateur de l'univers, est aussi celui qui le soutient. Il est pleinement engagé dans le gouvernement et la rédemption du monde. Il est le sauveur de la race humaine. La vie contemplative doit donc être subordonnée aux objectifs de la vie active. Un homme qui se convertit ne doit pas renoncer à tout emploi séculier au profit de la prière et de la contemplation. Il doit au contraire conserver son ancienne vocation et y ajouter les devoirs de sa nouvelle vocation chrétienne. Chaque humain doit contribuer au bien de l'ensemble en fonction de ses dons et recevant des autres selon ses besoins. Nous avons donc des obligations sociales. Le même principe vaut dans la communauté humaine, la société, que celui qui vaut dans l'Église, la société spirituelle, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. L'ordre social qui semblait naturel et immuable à Luther, qui obligeait chacun à garder sa place, parce qu'il y avait celui qui était né en tant que paysan, il y avait celui qui était né en tant que noble, et ça ne devait pas changer. C'était comme ça, chacun devait assumer sa propre place. C'était immuable dans la pensée de Luther. Mais cette vision s'est avérée sujette à variation avec la transformation de la civilisation européenne, et les calvinistes ont compris qu'il fallait aussi remédier aux défauts de l'ordre social qui s'installe à un temps donné. L'ordre établi n'a plus été perçu comme seul critère de la vocation, mais plutôt les dons personnels qui doivent être judicieusement employés pour le bien commun, en changeant éventuellement de position sociale si cela est nécessaire. Alors l'Église catholique moderne a fini par rejoindre en fait la position protestante en insistant sur les obligations sociales liées à la propriété privée des biens de production. Il y a eu plusieurs encycliques papales sur le travail. Chacun doit bien remplir ses obligations, ouvrier comme patron. Par le travail, nous nous acquittons du mandat confié par Dieu lors de la création, la mettre en valeur. Et sur le parallèle avec l'Église et la participation aux souffrances de Christ, la pensée se rejoint aussi. La société doit être transformée dans l'esprit évangélique. Donc c'est toute une évolution qui s'est faite, hein, et qui a été surtout marquée par cette reprise de conscience des réformateurs du travail comme vocation, comme ce que ce pourquoi Dieu a créé l'homme. Alors le chapitre 3, eh bien, c'est assumer un métier dans le contexte chrétien. Et il y a deux points, on peut dire, essentiels. Premièrement, se revêtir des vertus liées à notre appel à suivre Christ, à notre qualité de disciple de Jésus, être toujours revêtu de ces vertus. Et deuxièmement, s'adonner à une occupation spécifique, qu'elle soit rémunérée ou non, qu'elle soit plus ou moins choisie, et donc exercer les dons que Dieu a confiés pour le service d'autrui, premièrement en discernant ces dons, et cela se fait en réfléchissant aux expériences passées, tout en restant ouvert aux expériences à venir. Il y a une certaine, en quelque sorte, expérimentation dans la découverte de ces dons. On peut être aidé par des tests d'aptitude même, mais aussi, à cause du péché qui peut donner de mauvaises motivations, il est bon de chercher l'avis de personnes objectives qui vont pouvoir aussi nous conseiller sur les dons qu'elles-mêmes, elles ont repérés à notre égard. Tout cela dans l'humilité, en sachant qu'on peut parfois être appelé à exercer dans des emplois qui sont peut-être plutôt subalternes par rapport à d'autres emplois qui seraient mieux en vue, hein, si c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes quand même qualifiés pour un grand nombre d'occupations, et donc nous pouvons donc évoluer et changer dans la vocation que Dieu nous a accordée. Ayons donc confiance que Dieu accorde les dispositions et nous place dans les circonstances favorables pour exercer notre vocation. Et parfois, nous sommes appelés à nous engager là où nous ne sommes pas le plus qualifiés. Ça, c'est une exception qui vient d'un miracle de Dieu. Enfin, trouver le bon lieu où exercer la vocation que nous avons découverte. Notre culture regorge de biens et de services de valeurs douteuses. Je dois prendre en considération la portée sociale de l'emploi. La conviction chrétienne poussera vers les besoins humains les plus criants, là où le chrétien peut faire la différence. Choisir l'emploi qui offre le plus grand avantage au prochain, disait Calvin. La satisfaction dans le travail ne peut pas être le seul critère d'évaluation de l'emploi. Il y aura probablement des satisfactions et des frustrations. Et puis bien sûr, l'emploi salarié peut aussi être un moyen de s'engager parallèlement dans ce qui constitue une véritable vocation et qui sera, elle, exercée bénévolement, et c'est en particulier le cas au sein de l'Église. Alors bien entendu, la question de la vie spirituellement consacrée qu'on appelle contemplative, comme la vie monastique avec des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, pourrait-elle être également une vocation particulière, comme d'autres ont un métier ? Oui, ont répondu les réformateurs, à condition que la règle soit un instrument et non le critère de la piété. De plus, le monastère peut être au service du prochain, d'une part en disposant certains à être de fidèles ministres pour l'Église, d'autre part en dispensant des enseignements au peuple. Et quand je pense personnellement aux instituts bibliques, par exemple, qui impliquent quand même un certain renoncement à la vie personnelle, eh bien, je pense qu'ils sont proches de cette définition. Pendant 1, 2, 3 ans, un jeune, une jeune va se mettre à part, ne va pas travailler, ne va faire qu'étudier, mais pour pouvoir être au service de ses frères et sœurs dans la foi par la suite, hein. Voilà donc ce résumé, en quelque sorte. Il y a encore un chapitre 4 qui traite davantage une analyse plus du fonctionnement social du travail. Donc si on s'en tient à une idée du travail sans la révélation, on penche vers une exploitation d'autrui afin de bénéficier des meilleures conditions de vie personnelle. On recherche la position sociale la plus élevée. Et ceux qui sont exploités, dont la mémoire est oubliée, n'ont d'autre choix que de compenser dans des plaisirs frustres. Et c'est ce que produit la société, en particulier actuellement. Mais si l'on s'inscrit dans la connaissance du Dieu vivant, qui nous a placés comme ses représentants sur la terre, on cherche à correspondre à ce pourquoi il nous a fait. On discerne les dons reçus afin de les mettre en œuvre dans le meilleur contexte possible. On admet des limitations dans notre vocation particulière, tout en cherchant à la rendre plus parfaite. Au besoin, on essaie d'agir sur l'environnement de notre emploi pour le rendre plus proche de notre vocation. Que notre Seigneur donne donc à ses enfants de solides convictions pour travailler à sa gloire dans ce monde, car même s'il s'agit d'un travail séculier, l'Évangile sera favorisé par la cohérence de l'engagement du chrétien. Dans une société où un chrétien est à l'œuvre avec les vertus chrétiennes, nécessairement, il marque son environnement et il favorise la dispensation de l'Évangile.